15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être tous les jours de 15h à 16h avec le docteur Jimmy Mohamed à mes côtés. Nous tentons tous les deux de répondre à vos interrogations et de vous faire du bien. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à un trouble de l'apprentissage dont on parle de plus en plus ces dernières années, la dyslexie. Souvent associée à la dysorthographie, il est très important de ne pas passer à côté. Alors comment la dépister chez son enfant? Quels sont les signes qui doivent pousser les parents à faire un bilan? Et comment surtout prend-on ensuite ses enfants en charge, notamment pour que la scolarité se déroule au mieux? Pour en parler, notre invité, ce sera le pédopsychiatre Louis Vera. Ensuite, avec le docteur Jimmy Mohamed, comme tous les jours, depuis que le coronavirus se fait un peu plus calme en France, nous répondrons à vos questions, mais donc celles qui concernent aussi vos petits et gros bobos du quotidien. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui, avec elle il sera question de fantasmes qui peuvent finalement s'avérer très décevants quand on les réalise.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Mais avant cela, pour ouvrir votre magazine santé, nous allons quand même faire un point rapide dans le contexte coronavirus. Et pour cela, nous accueillons donc en ligne le président de la Ligue contre le cancer, le professeur Axel Kahn. Bonjour.
Bonjour Mélanie Gomez.
Alors depuis le début de cette épidémie, s'il y a une population de patients qui a été fortement impactée par tout ça, ce sont bien ceux qui sont atteints par un cancer. Nombre d'entre eux ont vu, professeur, leurs opérations ou leurs traitements reportés notamment. Est-ce que vous diriez qu'au jour d'aujourd'hui, les soins en oncologie reprennent de façon normale?
Oui, ils sont en train de reprendre, mais nous avons encore un souci. C'est celui des reprogrammations des opérations chirurgicales qui ont été reportées. En effet, les produits d'anesthésie, et également pour obtenir une bonne décontraction de curarisation, le docteur Jimmy Mohamed connaît bien, ont été réquisitionnés pour faire face éventuellement à une deuxième vague et ne sont pas librement disponibles. Si bien que on a encore du mal à rattraper les retards d'inscription au tableau opératoire des opérations pour cause de cancer qui ont été déprogrammées.
Jimmy ?
Du coup, professeur Axel Kahn, c'est un peu compliqué puisque une intervention qui n'était pas urgente au mois de mars, elle va finir par l'être. Et est-ce qu'on ne pourra pas estimer qu'il peut y avoir une perte des chances pour des malades qui auraient pu être opérés dans des conditions un peu meilleures au mois de mars, par exemple, ou avril, et qui vont peut-être être repoussées d'ici le mois de septembre ?
Nous sommes très soucieux. Nous sommes très soucieux et nous attirerons l'attention des autorités. On a compris évidemment que au plus fort de la réanimation de milliers et de milliers de malades, il y avait un manque considérable de ces produits. Je crois que les stocks ont été rétablis aujourd'hui. Il ne faudrait pas que les mesures de précaution en cas d'une deuxième vague en arrivent à faire perdre des chances considérables, vous avez raison, docteur Mohamed, à ces malades dont les opérations ont déjà été décalées.
Autre sujet, Axel Kahn, dont on voulait parler avec vous aujourd'hui. Pendant le confinement, il y a des chiffres qui sont sortis, un quart des fumeurs ont déclaré avoir augmenté leur consommation de tabac. J'imagine qu'à la Ligue contre le cancer, c'est un sujet vraiment de préoccupation, ça aussi.
Ah oui, nous sommes extrêmement soucieux. Bon, vous savez, je rappelle rapidement des chiffres. Le tabac, c'est encore 75 000 morts par an en France, dont 45 000 morts par cancer. Avec en particulier ces cancers qui augmentent en fréquence chez les femmes, y compris des femmes relativement jeunes. C'est quelque chose de totalement épouvantable. Eh bien, voyez-vous, le virus COVID-2, la COVID, elle est extrêmement rusée. Ou bien elle frappe et elle peut tuer en frappant, ou bien elle peut modifier les comportements et elle laisse prévoir des morts supplémentaires du fait des modifications de comportement lors du confinement.
Jimmy ?
C'est d'autant plus dommage puisque les chiffres officiels de la consommation du tabac en France étaient en baisse depuis 6 ans. Et là, ça commence à remonter. Est-ce qu'il faut faire quelque chose pour inverser la tendance ? Est-ce que vous pensez que cette augmentation peut avoir un impact sur le moyen ou long terme dans la santé des malades ?
Ah, de toute façon, toute augmentation a un effet sur la santé des malades et sur le long terme. Il n'y a aucun problème. Vous êtes aussi soucieux que moi, mon cher confrère, de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce cancer du poumon qui est en train de devenir, dès cette année, la première cause de mortalité par cancer des femmes, avant même le cancer du sein. Donc c'est quelque chose de totalement épouvantable. Et le fait que par énervement, par malaise, par volonté réellement d'avoir à dépenser son énergie, etc. On imagine les circonstances dans lesquelles on se met à fumer. Le fait que des jeunes se soient remis à fumer plus, en particulier, ça prépare des malades atteints de cancer, notamment des femmes, pour le long terme. Et ça, il faut absolument que le message de prévention reparte avec beaucoup de vigueur.
Et je suis sûr qu'à la Ligue, vous allez faire tout pour, en tout cas.
Tout pour.
Dernier sujet, Axel Kahn, que nous voulions absolument aborder avec vous. À la Ligue contre le cancer, comme d'ailleurs d'autres associations, l'épidémie a fait chuter brutalement, drastiquement les dons. Pour vous, par exemple, c'est quoi les conséquences très concrètes ? Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Le fait est principal que énormément des dons à la Ligue est une très grosse association, mais qui dépend uniquement de la générosité publique, il n'y a pas de subvention d'État, des autorités, se font à l'occasion de grands événements de collecte. Or, évidemment, tous ces événements de collecte ont été supprimés pour 6 mois de l'année. Vous voyez les conséquences. D'ores et déjà, il y a un manque à gagner de 20 à 30% des dons.
Ah
et
oui.
Ça fait d'ores et déjà un manque à gagner, c'est-à-dire à distribuer en réalité, à utiliser pour nos missions, de moins de 10 millions d'euros. Et 10
c'est
millions
énorme.
D'euros, c'est tout à fait considérable.
Expliquez-nous justement ce que vous en faites de cet argent, pour que les gens comprennent bien ce que sont notamment, de façon très concrète, les actions de la Ligue.
Voilà. Alors, deux gros blocs, si vous voulez. La recherche, et en particulier, nous sommes extrêmement présents pour couvrir le financement des salaires des jeunes chercheurs qui sont l'avenir de la recherche en cancérologie en France. Et ça, ça représente 8 millions d'euros. Et vous voyez, 10 millions d'euros, c'est plus que la totalité de ces salaires que nous couvrons. Deuxièmement, dans tous les territoires, et y compris d'ailleurs outre-mer aussi, loin que possible que la Nouvelle-Calédonie, nous sommes présents pour accueillir gratuitement dans nos centres, plus de 500, les personnes pour leur proposer des soins de support, des soins qui leur permettent de mieux supporter le long trajet dans le cancer, c'est-à-dire la psychologie, c'est-à-dire les soins esthétiques, les soins capillaires, l'activité physique adaptée, les conseils nutritionnels. Dans tous les territoires également, lorsque les personnes ont été précipitées dans la précarité économique
vous les
du fait
aidez
de l'entrée dans le
ça,
cancer,
oui.
On les aide par un chèque, on les aide vraiment financièrement, et tout cela se représente des sommes. Tous les soins de support gratuits, c'est 10 millions d'euros. Donc, vous voyez un peu comparaison avec le manque à gagner.
Ce sont
aides économiques,
de l'argent,
c'est 6 millions.
Et des aides en moins pour tous ces gens qui en ont besoin et que vous aidez chaque année.
Et qui en ont plus besoin encore. Je veux dire qu'aujourd'hui, évidemment, la crise de la Covid, du fait de ses répercussions économiques, a aggravé la détresse économique surajoutée des personnes qui sont précipitées dans la maladie et dans la précarité économique.
Jimmy ?
Professeur Kahn, on a envie de vous aider et d'aider la Ligue. Comment est-ce qu'on fait pour faire un don concrètement ?
Alors, on peut le faire directement en ligne à ligue-cancer.net.
Parfait, bah écoutez, c'est tout à fait noté. Merci beaucoup, professeur Kahn, d'avoir accepté notre invitation. Et on invite bien sûr tous ceux qui le souhaitent à faire un don. Nous vous souhaitons bon courage pour la suite. Merci encore, professeur.
Europe 1.
Dans quelques minutes, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le pédopsychiatre Louis Vera, avec qui nous allons tenter aujourd'hui de mieux comprendre ce qu'est la dyslexie et la dysorthographie, les deux étant souvent associés. On va tout vous expliquer en détail. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors tout de suite, nous accueillons en ligne notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Louis Vera, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également l'auteur du livre « Tous précoces, tous hyperactifs, vraiment » aux éditions Larousse. Vous étiez venu nous en parler il y a quelques mois. Mais aujourd'hui avec vous, on va parler de la dyslexie, un trouble de l'apprentissage. D'abord, peut-être est-ce que vous pouvez nous donner une définition ? Parce que finalement, dyslexie, on en entend beaucoup parler. On ne sait pas toujours à quoi ça correspond précisément. Donc expliquez-nous ce que c'est que ce trouble.
Alors, vous l'avez très bien dit, la dyslexie, c'est ce qu'on appelle un trouble des apprentissages. Donc, il est à classer au rayon des 10, D-Y-S, et il est parfois accompagné d'autres troubles des apprentissages. Alors, la dyslexie, ça concerne l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Quand je dis écriture, ce sont des difficultés, surtout en orthographe. Et ce qu'on va remarquer, c'est que chez l'enfant qui souffre de dyslexie, il va prendre un retard dans l'apprentissage de la lecture dès les plus jeunes classes. Donc en fait, on peut le remarquer par un retard en fin de CP. Et ce qu'il faut pour poser ce diagnostic, c'est qu'on ait un retard dans l'expérience de lecture d'environ 18 mois par rapport aux autres.
Ah oui, ça c'est très important. Donc là où il faut,
voilà, là où on peut poser le diagnostic de dyslexie véritablement, c'est en fin de CE1. C'est le repère que je donne aux parents. Si en fin de CE1, votre enfant n'a pas une lecture fluide, c'est-à-dire que il ne va pas pouvoir lire sans s'arrêter pour déchiffrer s'il a une lecture hachée, si sa lecture est lente ou s'il a du mal à comprendre ce qu'il lit, alors à ce moment-là, en fin de CE1, il faut faire un bilan orthophonique pour aller repérer des signes de dyslexie.
Jimmy,
docteur Louis, ce qu'on va voir également.
Oui, vous avez parlé un petit peu de dysorthographie, mais ça veut dire quoi ? C'est tous ceux qui sont nuls en orthographe ne sont pas dysorthographiques. Comment est-ce qu'on fait la différence ? Parce que des gens mauvais en orthographe, bon, moi je suis pas
il
très
pense
doué.
À lui, je bah crois, oui. Là.
Et moi j'écris très mal et donc du coup on ne voit pas les fautes d'orthographe.
Je crois qu'il y a beaucoup de médecins dysorthographiques.
C'est la technique des médecins,
sûrement,
ouais. Exactement.
Ça y est, je sens Jimmy inquiet de nouveau à chaque fois qu'on parle de ces difficultés. Alors, effectivement, alors ce qu'on va voir surtout chez le dyslexique sont des difficultés dans la segmentation des mots. En fait, le découpage des mots est compliqué pour lui. Parfois, les mots vont être tout attachés. Parfois, ils vont être mal découpés. On va également pouvoir noter dans une page de dyslexie que des mots peuvent être écrits de plusieurs manières différentes. Alors après, je rejoins complètement Jimmy sur une chose, c'est que tous les dysorthographiques ne sont pas dyslexiques. Et là, il faut faire très attention justement parce que ça appelle des bilans supplémentaires.
Ah oui, d'accord.
L'enfant qui va faire beaucoup de fautes d'orthographe en n'ayant aucun problème de lecture ou de compréhension de ses lectures doit absolument faire des bilans parce que la plupart du temps, c'est tout bête, mais c'est une dysgraphie, donc des difficultés sur le geste graphique qui vont entraîner un coût. Hein. C'est comme pour le dyslexique. Le dyslexique, en fait, il dépense beaucoup d'énergie pour lire.
Et là, c'est
le
pour
dysgraphique,
écrire, ouais.
Lui, va dépenser beaucoup d'énergie pour écrire. Il est concentré sur le geste pour bien écrire sur la ligne, pour pas faire de rature, pour que ce soit lisible.
Et
du coup, il fait pas attention aux 277 000 règles de la langue française. Et là, il va faire beaucoup de fautes d'orthographe. Et ce dysorthographique n'est pas dyslexique.
Alors, puisqu'on parle de la dyslexie, quand même, donnez-nous une idée. Je sais pas si on a des chiffres très précis, parce que j'imagine qu'il y en a peut-être aussi beaucoup qui sont pas diagnostiqués. Mais il y a combien de dyslexiques en France, d'enfants dyslexiques par classe? Peut-être on a une idée.
Les dyslexiques, ça représente entre 5 et 10% de la population française.
D'accord.
En fait. Et ce que vous dites est très juste. Malheureusement, il y a des dyslexiques qui ne sont pas diagnostiqués. Et ça m'arrive régulièrement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la dyslexie, c'est un trouble héréditaire, très largement.
Oui.
Donc en fait, on va le rechercher principalement dans des familles de dyslexiques. Et quand j'interroge des parents qui viennent pour des problèmes de concentration ou d'apprentissage, je leur demande toujours s'il y a des dyslexiques dans la famille. Et puis je suis souvent surpris d'entendre des parents dire « Ah ben alors moi je le suis pas, mais j'ai toujours eu du mal à lire, c'est vrai que je me pose la question d'eux. Ah ouais, parfois quand je lis les consignes de mon enfant, j'ai du mal à les comprendre. » Donc c'est vrai que c'est pas forcément diagnostiqué. Pourquoi ? Parce que les enseignants ne sont pas assez formés.
Jimmy, une dernière question ?
On a plus de garçons ou de filles ? Est-ce que la répartition est équitable ?
Alors, la répartition, encore une fois, joue en notre défaveur, Jimmy.
Mais pour une fois,
parce
que c'est
qu'il
des hommes,
y a... voilà,
pour... On a plein d'autres
mais
trucs,
non,
nous, hein.
C'est pas que pour une fois, les troubles de l'attention, ça touche aussi
c'est
plus
vrai.
Souvent les garçons. Et là, il y aurait une proportion d'à peu près 4 garçons pour une fille, ce qui est totalement injuste, je le souligne.
Merci beaucoup, docteur Vera. Ne bougez pas, on fait que commencer cet entretien. On vous retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, on rentre un peu plus dans le concret. Comment vraiment se pose le diagnostic de dyslexie chez un enfant ? À quel âge d'ailleurs faut-il vraiment consulter ? Et qui ? Le CP, on vient de l'entendre, hein, c'est en réalité un peu trop tôt. Vous verrez qu'il vaut mieux attendre la fin du CE1, on vient d'en parler. On vous explique tout ça dans le détail juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous ? 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, docteur Louis Vera. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On parle de dyslexie avec vous aujourd'hui et on va rentrer dans le détail un petit peu sur comment il se fait justement ce diagnostic de dyslexie chez un enfant. D'abord, alors vous disiez, les parents qui s'inquiètent là dès le CP, on est en fin d'année, alors en plus une année compliquée, on va pas revenir là-dessus, mais ceux qui savent pas lire aujourd'hui en CP, ça veut pas dire qu'ils sont dyslexiques. On est d'accord.
Non. Alors, comme je dis toujours aux parents, nous ne sommes pas des machines. On n'est pas programmés tous de la même manière et ça n'est pas grave de prendre un peu de retard pour l'apprentissage de la lecture. Si on n'est pas fluide en fin de CP, j'ai même envie de dire, c'est quand même la majorité des cas, c'est normal. Il faut être fluide en fin de CE1 et donc il ne faut pas se poser de questions cette année toute particulière pour les jeunes qui étaient en CP qui ont pris du retard. Il faut leur souhaiter de le rattraper le plus rapidement possible à la rentrée prochaine. Puis je vais vous dire une chose. C'est vrai quand les parents me disent « Mon fils a su lire à la fin du premier trimestre de CP
oui, »,
ça me fait toujours sourire.
Il y en a qui me disent aussi
«
Il savait déjà lire en rentrant à la fin de la maternelle ».
C'est une grande minorité.
Oui, oui.
Voilà. Bon, ça, c'est une grande, grande minorité.
Dimitri.
Alors, on n'a pas parlé d'une chose.
Allez-y.
C'est de ce qui peut faire suspecter la dyslexie chez un plus grand. Parce que malheureusement, parfois, le diagnostic va passer à l'as. Hein, comme je le disais, le dyslexique, ça a un coût en termes d'énergie pour lire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne saura pas lire. Et parfois, on le découvre à l'adolescence, et là, il faut le suspecter chez des jeunes qui ont du mal à apprendre les langues étrangères.
Mmh.
Tous ceux qui vont avoir du mal avec l'anglais, du mal avec l'espagnol.
Jimmy,
mais
vous
pas
êtes
seulement
foutu.
Ceux qui vont avoir...
Il est en train de pas lire, Jimmy. Là.
Non, mais c'est tous les Français qui ont un problème avec l'anglais.
À chaque fois que vous m'appelez, on lui trouve des difficultés à Jimmy. Là, c'est pas possible.
Ah,
il va venir prendre
ça.
Une consultation spécialisée.
Mais
alors,
les
en plus des difficultés dans les langues étrangères, ces jeunes-là ont du mal à s'exprimer à l'écrit. Donc, ils ont du mal pour tout ce qui est rédactionnel. Et ça va se voir aussi sur les bulletins scolaires parce qu'ils sont en difficulté pour faire des rédactions en histoire-géographie où de plus en plus, on leur demande des réponses élaborées. Donc, il faut pas oublier tout ça parce que je le vois parfois, des adolescents qui ont des résultats qui sont déficitaires en français, dans les langues et dans les matières rédactionnelles, il faut aussi suspecter une dyslexie.
Jimmy ?
C'est intéressant parce que ça voudrait dire qu'on est dyslexique quasiment de façon innée et c'est pas quelque chose qu'on va acquérir au cours de la vie. On est finalement, on est comme ça et c'est pas un traumatisme parce que parfois on peut penser qu'un enfant dyslexique, c'est un enfant, je sais pas, qui aurait pu être battu ou humilié ou maltraité alors que c'est peut-être tout simplement un des traits de caractère qu'on peut avoir. Pas de caractère, mais.
C'est cérébral, c'est neurologique.
Exactement.
En fait, voilà, c'est un trouble neurobiologique, donc avec une très forte hérédité. Et oui, j'aime pas trop dire on est un peu comme ça, mais ça fait partie effectivement des traits héréditaires. Et
donc les
et
parents
donc
n'ont
de
pas
ces troubles dont on ne guérit
disant,
pas.
On n'a pas à se dire on est des mauvais parents, on a un enfant dyslexique parce qu'il y a un poids de la société. On veut tous avoir des enfants parfaits, qui sachent lire et écrire très vite, très facilement, compter, être de brillants avocats. On a tous des aspirations un peu particulières, mais c'est pas la faute des parents.
Mais ça, je suis pas d'accord.
Ah.
C'est toujours les parents en France veulent toujours avoir des gamins parfaits qui vont faire de la section générale. Mais si on est dyslexique, on peut quand même avoir d'autres points forts. Si on a du mal à se concentrer, on peut avoir d'autres points forts aussi. Et en fait, pour être heureux dans la vie, il faut bâtir sur ses points forts. Et c'est pas grave d'être dyslexique. Moi, je leur dis toujours à mes petits loulous. Quand je dis mes petits loulous, c'est mes petits patients qui sont dyslexiques, qui sont courageux et que je suis fier d'eux quand ils réussissent à gagner un point, deux points sur leurs notes en français ou en langue étrangère. Mais de toute façon, on ne peut pas être bon dans toutes les matières.
Ouais. Alors si on suspecte justement ces
donc
problèmes...
Donc les parents, je suis d'accord, il ne faut pas culpabiliser. Il ne faut pas culpabiliser parce que ce n'est pas de leur faute, sauf s'ils l'ont bercé trop près du mur. Ça, c'est autre chose.
Docteur Véra, si on suspecte ce genre de problème chez notre enfant, donc en fin de CE1, on va dire, on va parler plutôt des petits pour l'instant, on va voir qui ? On va voir un médecin, une orthophoniste. C'est qui la personne qui va faire le bilan ?
On va voir une orthophoniste... Et on demande toujours la même chose, un bilan du langage oral et un bilan du langage écrit. Parce que les jeunes qui ont présenté un retard de langage ont souvent plus de difficultés pour apprendre à lire. Donc on demande absolument les deux bilans. Et c'est le bilan de l'orthophoniste qui va nous aider à poser le diagnostic. Mais on est bien d'accord, pas avant la fin du CE1.
Docteur Véra, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. Nous allons continuer notre point du jour sur la dyslexie. Une fois ce bilan et le diagnostic posé, quel type de prise en charge peut-on proposer à ces enfants ? Avec quels résultats ? Quels sont aussi les aménagements à prévoir pour leur faciliter la vie scolaire ? On vous détaille tout ça juste après. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Avec nous toujours en ligne, c'est vous, docteur Louis Véra. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Alors docteur Véra, une fois que le diagnostic est posé par l'orthophoniste, on vient d'en parler après ce bilan, c'est elle, donc j'imagine, qui va entamer la prise en charge derrière, la rééducation, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit ?
C'est comme ça qu'on dit, c'est une rééducation qu'on va faire pour soutenir le jeune dans son apprentissage de la lecture et ou de l'orthographe.
Jimmy ?
Donc ça veut dire qu'on ne va pas traiter le trouble, on va l'apprendre à compenser avec des techniques de rééducation.
C'est exactement ça, on ne traite pas la dyslexie, quand on est dyslexique on le reste à vie, mais on apprend à compenser de différentes manières grâce à la rééducation orthophonique qui est le principal de la prise en charge de ces enfants.
Et on fait quoi comme genre d'exercice? Ça dure combien de temps? C'est toutes les semaines? C'est plusieurs années? C'est toute la vie? Enfin je sais pas.
Alors il faut aller chez l'orthophoniste toutes les semaines et en général sont des séances de 30 à 45 minutes par semaine où elles vont, alors c'est difficile de vous dire exactement ce qu'elles vont faire parce qu'il y a différents types de dyslexie, donc elles vont donner différents types d'exercices. On pourrait peut-être parler des outils pratiques pour les aider au quotidien, ça me semble intéressant pour eux.
Alors justement, donc à la maison, il y a des choses qu'on peut faire justement parce que moi j'imagine que c'est des gamins qui aimeront jamais lire si c'est difficile, ils vont lire que des BD et puis ouais, je sais pas.
C'est vrai que pour les dyslexiques, c'est difficile de prendre goût à la lecture, c'est difficile de prendre goût à quelque chose qui est coûteux. Donc je dis toujours, mais il faut pas les empêcher de se tourner vers les bandes dessinées. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire pour les soutenir dans leur effort. Vous savez, il y a des réglettes de lecture.
D'accord.
Qui sont en fait des réglettes transparentes avec juste une ligne de tracé qui permettent de pas perdre le fil.
C'est tout bête,
mais c'est un petit outil qui permet de dépenser un petit peu moins d'énergie en se retrouvant pas perdu dans le fil de sa lecture.
Une petite réglette, d'accord, c'est intéressant. Jimmy ? Allez-y, terminez, s'il y a d'autres outils, bien
pour
sûr.
Pour les plus grands, moi je leur dis toujours, écoute, t'as du mal à lire. On t'a donné un bouquin à lire en français. Ça va te coûter. Tu vas pas forcément tout comprendre parce qu'il y a des dyslexiques qui ont du mal à se représenter ce qu'ils sont en train de lire. Donc pourquoi est-ce que tu téléchargerais pas le livre audio ?
Ah, ben oui, évidemment. Et écouter la radio, c'est parfait aussi. Ça fait du bien plutôt que de lire.
Et bien sûr, écoutez sans rendez-vous sur Europe 1.
Jimmy ?
En dehors de la rééducation, il y a aussi des aménagements scolaires qui sont importants et qu'il faut prendre, mais dans quel ordre ?
C'est très important de mettre en place des aménagements scolaires et dans les premiers aménagements scolaires qu'il faut mettre en place, c'est aider le jeune tout bêtement hein, en évaluation, en lui lisant la consigne à l'oral. Ça l'aide à se représenter ce qu'on attend de lui et comme ça on est sûr qu'il a compris la consigne, il va pas avoir une mauvaise note parce qu'il a pas compris la consigne.
Mais ça c'est l'enseignant qui doit s'y plier du coup. Hein.
C'est l'enseignant qui doit faire. On va aussi s'empêcher de lui retirer des points pour toutes les fautes d'orthographe. Moi, je trouve ça navrant quand un jeune perd des points en mathématiques ou en histoire parce qu'il a fait des fautes d'orthographe alors qu'il avait fait l'effort d'apprendre sa leçon.
Ouais.
On va aussi le soutenir en lui faisant des dictées à trous. Plutôt que de lui faire des dictées comme tout le monde, on lui prépare une dictée à trous où il doit apprendre certains mots et comme ça, c'est moins coûteux pour lui.
Pas évident pour les enseignants quand même, parce que c'est un suivi très individualisé du coup. Mais est-ce que les enseignants aujourd'hui en France, ils connaissent bien ces troubles, ils savent faire et ils ont le temps de s'en occuper ?
Les enseignants ne sont pas assez formés sur tous les troubles des apprentissages. On les forme un petit peu, c'est vrai, à la dyslexie, et encore pas assez, parce que ils ne sont pas assez informés sur les aménagements à mettre en place. Et alors, si on commence à parler de dyspraxie, de troubles de l'attention, de dyscalculie et autres, c'est même plus la peine. Et ça, c'est très important à souligner, parce que quand il y a une dyslexie, il faut pas se contenter d'aller chez l'orthophoniste, il faut aussi absolument rechercher d'autres troubles des apprentissages, d'autres troubles dys.
Jimmy.
Et justement, c'est important d'en parler puisqu'ils ont le droit aussi du coup à un tiers-temps pour des examens, donc du temps supplémentaire.
Le temps supplémentaire, ça peut les aider à condition qu'ils soient habitués à l'utiliser. Et c'est là le gros problème.
C'est le PAP, je crois, c'est un plan comment ça s'appelle déjà ?
C'est ce qu'on appelle le plan d'accompagnement personnalisé.
Voilà,
c'est le document qui met en forme les aménagements scolaires qu'on demande. Mais après, c'est à chaque enseignant de les appliquer. Et le tiers-temps, effectivement, comme il est dur à mettre en place, il n'est pas forcément favorable aux enfants parce que comme ils sont fatigués de l'effort de lecture des consignes, de l'effort d'écriture, après, ils n'ont pas forcément suffisamment d'énergie pour aller repérer leurs erreurs, vous voyez ?
Ah oui, d'accord.
Donc, ce qui est vraiment le plus important, c'est de ne pas leur enlever de points pour des fautes d'orthographe et de les aider sur la lecture des consignes.
On imagine qu'au primaire, ça va, c'est gérable, on a une enseignante à aller voir, mais quand ces enfants-là arrivent au collège, ça doit être plus compliqué quand même.
Ne m'en parlez pas, c'est un calvaire pour les parents, j'en entends parler tous les jours.
Merci beaucoup docteur Vera d'avoir accepté notre invitation, grâce à vous en tout cas, on comprend mieux ce qu'est la dyslexie et comment la prendre en charge au mieux. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, votre émission Santé revient, ce sera le vrai faux avec le docteur Jimmy Mohamed. Nous allons répondre à vos questions santé bien-être, celles que vous nous laissez sur notre répondeur au 3921. On revient très vite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Tout de suite, on retrouve notre vrai faux, vos questions santé bien-être au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de Marina.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je vous téléphone, en fait, j'ai lu que l'aloe vera est une super plante avec beaucoup de vertus pour avoir une belle peau. Et aussi, j'ai lu que ça se mangeait. Est-ce que vous savez où je peux en trouver et comment ça s'utilise ?
Je sais pas, Jimmy, vous avez fait comme ça avec la tête ? Vous avez hoché là ? Vous mangez de l'aloe vera ?
Oui, matin, midi et soir. Non, j'ai une tête à manger de l'aloe vera. Franchement, Mélanie Gomez, vous, au fin de saison, je pensais que vous commenciez un peu à me connaître.
Je sais pas, vous avez hoché de la tête. Vous avez compris que c'est pas Jimmy qui va nous répondre sur l'aloe vera. Pour répondre à votre question, Marina, nous avons interrogé une spécialiste du sujet. C'est la naturopathe Julia Simon. On écoute son avis sur les bienfaits donc, de l'aloe vera.
Donc en effet, l'aloe vera, c'est une super plante parce que c'est une plante qui est aussi comestible. On la connaît bien pour ses vertus pour la peau, mais on peut aussi la manger. On peut trouver des feuilles d'aloe vera en magasin bio. C'est la manière la plus naturelle de l'utiliser. On va pouvoir couper des petits morceaux et les manger soit tels quels ou soit les mettre dans un jus par exemple ou dans un smoothie. L'aloe vera, elle est connue pour son action sur les muqueuses de l'organisme. Donc toutes les muqueuses, à savoir la peau, mais aussi les intestins et l'estomac. C'est pour ça que les gens, en général, consomment de l'aloe vera, notamment pour des problèmes intestinaux, comme des problèmes de constipation, par exemple.
Ben voilà, Jimmy, pour vos problèmes de constipation, dans un smoothie d'aloe vera matin, midi
Très
et soir.
Bien. Je
et
m'y
ça ira
tout de suite.
Nickel. Allez, en présent, on va passer à la deuxième question d'auditeur. C'est Inès qui nous l'a laissée.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, j'espère que vous allez bien. J'ai une question, j'ai appris que j'étais enceinte et en même temps que j'avais un diabète gestationnel. Mon médecin m'a mise au régime, mais je suis très inquiète quant à l'état de mon bébé. Que risque-t-il précisément si je ne respecte pas à la lettre ce régime sans sucre ?
Alors Jimmy, d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer ce qu'est précisément le diabète gestationnel, qui n'est pas la même chose que le diabète qu'on peut avoir hors grossesse ?
Oui, le diabète gestationnel, c'est le diabète de la femme enceinte. Voilà.
Bon, si vous pouvez un petit peu
mais quand on cherche
élaborer
à développer un peu
votre
plus,
réponse.
Alors,
voilà.
Déjà, ça peut révéler un diabète antérieur à une grossesse, qu'on a ignoré un diabète de type 2 et qu'on découvre pendant la grossesse. Mais ça peut être un vrai diabète qu'on va développer au moment de la grossesse, plutôt aux alentours du deuxième trimestre, et qu'on ne va pas garder par la suite. Alors, c'est lié à une intolérance aux glucides. En gros, vous avez un trouble de régulation du glucose qui fait que votre sucre
ouais.
est plus élevé dans le sang. Et c'est lié à une insulinorésistance, une résistance à l'insuline qui est propre à la grossesse. Et on a certains facteurs de risque. Si jamais vous faites une grossesse un peu tardive après 35 ans, vous avez 15% de risque
en
de
plus,
faire du diabète gestationnel.
Oui.
Même chose si vous avez un surpoids ou si vous êtes obèse, ça c'est 20 à 11% supplémentaire. Si vous avez un antécédent personnel de diabète gestationnel, eh bien vous avez une chance sur deux.
Si on en a fait un pour la première grossesse, donc pour la deuxième en général, on
Exactement.
Y a droit aussi. D'accord.
En cas d'antécédent familial de diabète de type 2. Et enfin, si vous avez eu un gros bébé, on appelle ça la macrosomie, un bébé de plus de 4 kilos, eh bien vous êtes à risque. Et puis des fois, on a des femmes qui sont plutôt minces et qui font attention et qui malgré tout vont avoir un diabète. Donc c'est pas forcément lié à votre mode de vie. Il ne faut pas non plus culpabiliser quand on a ce diabète.
Alors justement, elle demandait, elle évoquait les risques pour son bébé, parce qu'on ne va pas se mentir, des risques quand même pour le fœtus, si on ne traite pas ce diabète, il y en a.
Évidemment, il y en a plusieurs. Déjà pour la maman, il y a des risques immédiats avec une augmentation du risque d'hypertension artérielle et de cystite, c'est tout bête. On sait qu'en plus, sur le long terme, c'est des femmes qui vont avoir un risque de diabète de type 2. Elles sont 10 à 60% à devenir diabétiques 20 ans après la grossesse. Et puis pour les enfants, il y a plusieurs risques. Le premier, c'est ce qu'on appelle la macrosomie, d'avoir un gros bébé, donc c'est mignon, c'est sympa. Mais il y a un risque de dystocie des épaules lorsque le bébé cherche à passer le bassin. Eh bien, comme ses épaules exactement, sont trop larges, eh bien, les épaules ne passent pas. Il y a un risque de rupture du plexus brachial des nerfs. Donc, faire une manœuvre très urgente. Et donc, c'est rare, mais ça peut être très grave. Il y a aussi un risque de mortalité in utero des bébés qui sont de maman diabétique. Et puis, on peut avoir à la naissance, non pas une hyperglycémie, mais plutôt une hypoglycémie néonatale liée à une sursécrétion d'insuline. Et sur le long terme, c'est des bébés qui peuvent devenir diabétiques ou en surpoids.
Vu tout ce que vous avez dit, on va faire rapide, mais je pense qu'il vaut mieux effectivement suivre ce régime à la lettre.
Régime hypoglucidique, ouais. On propose des repas fractionnés, on privilégie les fibres qui permettent de ralentir l'absorption des glucides et d'éviter le pic d'hyperglycémie. Une activité physique et parfois on a besoin d'avoir recours à l'insulinothérapie, mais c'est transitoire et après ça rentre dans l'ordre à l'accouchement.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions. Si vous aussi, comme Inès qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, on va retrouver Catherine Blanc et sa chronique sexo, comme tous les jours. Mais avant ça, un peu de musique. Enfin, la musique, c'est juste après. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio à l'instant. Catherine Blanc qui est notre sexologue et psychanalyste. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui Catherine, on a une question de Christophe. Christophe, il a 36 ans, je vous la lis. Le week-end dernier, je suis partie avec ma copine à la campagne. Nous avons expérimenté le sexe dans la voiture, mais je n'ai pas du tout apprécié, alors que c'est un fantasme que j'avais depuis pas mal de temps. Comment l'expliquer ? Catherine, pourquoi d'ailleurs, déjà certains fantasmes sur la voiture, je ne sais pas. C'est
une idée de pouvoir faire ça n'importe où, pouvoir faire ça dans un lieu qui est un lieu à l'extérieur, même dans la protection de la voiture, puisque pour ne pas le faire dehors, éventuellement dans la nature, à tort peut-être d'ailleurs. Mais effectivement, ce qui est amusant, c'est l'idée de le faire en dehors de chez soi. C'est une sorte de liberté, parce que la sexualité, elle cherche la liberté absolue. C'est de la liberté de faire l'amour. Et évidemment que nous sommes contraints par nos voisins, nous sommes contraints par les enfants, nous sommes contraints par les parents éventuellement, ou les amis, etc. Donc là, tout d'un coup, c'est les tout possibles. Donc il y a la voiture, il y a dans l'eau,
dans un ascenseur,
il y a dans les champs, voilà, c'est assez classique.
Et ailleurs que dans un lit.
Ailleurs que dans un lit et que dans sa maison.
Ah oui, d'accord.
C'est vraiment de l'extérieur, c'est sous les étoiles, ou sous le ciel en tout cas.
Jimmy.
D'accord, mais c'est vraiment pas pratique. Je ne sais pas s'ils ont fait ça.
Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est exactement ça.
Parce qu'à moins d'avoir un Renault Kangoo familial, mais pas très sexy, si on fait ça dans la petite Twingo, qui certes est courageuse.
Parce qu'il y a un siège auto dedans.
Je pense que voilà, c'est compliqué, non ?
C'est compliqué parce que les sièges ne se baissent pas comme il faudrait. Il y a évidemment un volant. On se cogne à droite, on se cogne à gauche. Il y a les fesses qui ressortent au-dessus des vitres.
Il y a le levier de vitesse.
Voilà, donc c'est. En fait, c'est drôle, mais ça n'est pas.
C'est à hyper ce titre, confortable, il faut
ça
le
n'est
dire.
Pas confortable. Donc, ça peut être drôle, donc sexy à l'idée parce que c'est drôle, mais pas dans les faits, en termes techniques et en termes de jouissance particulièrement confortable.
Il n'y a que dans le Titanic où c'est sympa quand Rose et Jack font ça.
Oui. Vous avez vu le Titanic, je savais que vous étiez insensible.
Qui n'a pas vu le Titanic, c'est franchement,
mignon,
c'est surtout ça.
Ouais,
mais c'est que dans les films où c'est intéressant.
Je qu'il avait un peu de romantisme en lui.
Oui, mais la vraie vie, ça, c'est... Ouais, non,
c'est pas... Il est le roi du monde.
Le faire dans une voiture, ça a quand même aussi un petit côté un peu exhibo. Au-delà du côté, je suis content d'aller le faire ailleurs que dans mon lit, le faire dehors, où on veut. Quand on est dans une voiture, même quand on est garé sur un parking, dans le noir, où il n'y a personne, on a un risque d'être vu. Il y a ça aussi qui est dans le,
bien
dans
sûr,
le fantasme joue.
Ceci étant, il parle de nature, hein. Il est parti à la campagne.
Là, oui.
Mais on n'est pas en plein milieu, en pleine nuit.
Du supermarché
ou dans certains endroits connus de certaines grandes villes où il y a effectivement des gens qui s'adonnent à de la sexualité pour être vus justement. Mais il y a cette idée-là de toute façon. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que le fait de faire dans la voiture, il y a cette possibilité. Même si, évidemment, dans la nature, il y a moins de chances que si c'était dans une ville.
Bien sûr.
Mais cette possibilité, c'est cette possibilité qui certainement rend les choses un peu excitantes. D'un point de vue, encore une fois, fantasmatique, puisque techniquement, c'était pas tout à fait.
Je vous vois trépigner, Jimmy. Vous avez une question très importante à poser.
Non, mais je sais que vous, Mélanie, vous avez une très grande voiture. Bon, on vous interrogera pas plus là-dessus, mais est-ce qu'il faut pas avoir des vêtements peut-être plus faciles à enlever et éviter d'avoir un gros pull, un grand pantalon, voilà.
Il aime les côtés pratiques, hein. Jimmy, donnez-nous les conseils pratiques.
Non, mais quitte à y aller, quoi, autant pas faire semblant.
Il vaut mieux ne pas être très habillé pour que ce soit très facile à se déshabiller.
Parce qu'il y en était qu'au sport d'hiver.
Voilà. Il vaut mieux en être. Voilà, bien sûr. Mais les hommes ont quand même un pantalon, des chaussettes, des chaussures. Alors vous imaginez le truc, vous avez les... En plus, non seulement il y avait tout l'attirail de la voiture, mais il y a le pantalon coincé qui est en bas des mollets avec les chaussettes, les chaussures, etc. Ça devient très folklorique, ça devient très drôle, mais très infaisable.
C'est décevant quand même d'être déçu par un fantasme, parce que ce qu'il nous dit, je reviens au point de départ de la question, il dit c'était un fantasme et finalement c'était nul.
Donc en fait, finalement, parfois, c'est naze de réaliser un fantasme.
Bah, en fait, parfois, c'est naze, mais c'est naze si on ne le prend pas sur le ton d'humour. Ce qui pose problème, là, c'est qu'il le prend trop sérieusement. C'est-à-dire que c'était son fantasme, il l'a vécu.
Il l'a raté.
Il l'a raté parce que, évidemment, vous savez, dans les fantasmes, on a toute la souplesse du monde. On va passer par là, les gens vont passer par là, etc. Et on oublie que...
Dans la vraie vie, on est un peu plus rigide.
On est un peu plus rigide. L'habitacle d'une voiture, même si c'est un Kangoo, eh bien... ça n'est pas nécessairement très confortable, ça n'offre pas...
Ou alors, il faut... monospace de Jimmy, je crois qu'il y a de la place.
Voilà, alors, condition d'aménager, d'avoir enlevé tous les sièges auto des enfants et d'avoir aménagé ça en dortoir derrière, bien sûr. Mais fondamentalement, on prend pas mal les choses et ça n'est pas grave de l'avoir loupé parce que c'était drôle. Et ça, du coup, redonne beaucoup d'érotisme au lit conjugal et donc au lit habituel ou à la position habituelle. Donc finalement, c'est pas mal d'essayer des choses un peu tordues pour se dire que finalement, le quotidien est assez délicieux finalement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain également Jimmy. Tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, surtout aujourd'hui vous qui aimez la musique, restez avec nous. On reçoit Ben l'Oncle Soul qui sort un nouvel album absolument magnifique et éclectique. On parlera beaucoup de reprises de tubes et vous aurez l'occasion d'entendre une grande artiste dans notre émission puisqu'on passera un extrait d'une certaine Mélanie Gomez qui chante Fever.
La honte,
à tout à l'heure.
Non, vous n'êtes pas gentil, vous allez me taper la honte encore. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup, Mathieu. Je vais quand même écouter à quel point je me prends la honte. Et donc, je vais rester sur Europe 1 et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.